Nada. Cédric de Oliveira, Rabat, RFI.
Sénégal-Maroc, vous le notez, le rendez-vous demain sur les antennes africaines de RFI. En intégralité, coup d'envoi à 19h, temps universel.
Radio G. 101.5 FM.
Pour d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission et nouvelle découverte littéraire. Déjà la 10e depuis mon arrivée en septembre. Le dernier roman que nous avons exploré les deux semaines précédentes était Vox de Christina Dalcher. Une dystopie assez glaçante. Vous pouvez retrouver les émissions sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Pour les deux prochaines semaines, je vais donner voix à un roman de Franck Tilliez. C'est sans doute un de mes auteurs de thrillers préférés. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir lequel de ces romans présenter. Je ne me suis ni rabattue sur celui qui me l'a fait découvrir, même si ce fut mon premier choix, ni sur mon préféré, car il est encore indéterminé. À la place, j'en ai pris un au pifomètre, parmi ceux qui m'ont le plus marqué et avec une intrigue pas trop compliquée à expliquer. Mais j'aurais pu en présenter bien d'autres. Je m'amuserai peut-être à vous faire une liste de mes recommandations à la fin de l'émission de la semaine prochaine. Bref, aujourd'hui, et pour ces deux semaines, je vais vous plonger dans le roman Rêver. Dans cette histoire, nous suivons Abigail, une psychologue qui travaille souvent, main dans la main, avec la police. Une sorte de profiler. Elle est atteinte d'une forme de narcolepsie qui la plonge régulièrement dans un monde de rêves et cauchemars qui la font douter de la réalité. Je vais vous laisser découvrir ce personnage et ce qui va la plonger dans une aventure qui, elle, aura tout d'un cauchemar tout en étant bien réel. On se retrouve après cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 5. C'était d'étranges photos signées Abigail Durnan qu'on remarquait en premier lorsqu'on pénétrait dans son bureau. Une petite pièce mansardée, adjacente à sa chambre à coucher. Chacune d'entre elles résultait de dizaines d'heures de travail, à traiter numériquement des photos issues de banques de données, faire des montages, imprimer, découper, coller. Elles étaient encadrées et alignées à mi-hauteur sur les murs. Des fresques démentes, cauchemardesques. Une femme sans bras, au visage de chien, aux jambes brisées façon puzzle, qui brûlait dans l'orage comme un oiseau de feu. Des jumeaux albinos, figures nacrées et cheveux blancs plaqués, leur corps d'ange lardé de cicatrices, de clous, de lames, de rasoirs, flottant au-dessus de la surface d'une eau noire comme de l'huile de vidange. Un peu plus vers le fond, l'ombre gargantuesque d'un bâtiment fouetté par la pluie. Sans doute un manoir ou un vieil hôpital psychiatrique, traversé de centaines d'épées géantes et d'éclairs. L'eau, le feu, les cassures, les cicatrices, chaque fois. Mort et vie, s'épousant dans un baiser fougueux. Avec les jeux d'éclairage et d'ombre, ces œuvres démentes glaçaient le sang et semblaient avoir été créées par un psychotique. Or, elles sortaient juste du cerveau d'une femme de 33 ans, diplômée en criminologie et en psychologie, titulaire du certificat d'études pénales, experte auprès des bureaux de Lille et Douai. Phobique de l'eau, mer et piscine, et narcoleptique. Au fond de l'antre, punaisée sur un tableau rectangulaire, situé au-dessus d'une table en teck plaquée contre un mur, des photos d'enfants. Et il ne s'agissait pas de montage cette fois. Un patchwork de sourires francs, de frêles silhouettes, de postures juvéniles. Ici, une gamine, Alice, assise au pied du phare de Ploumanac, dents blanches et innocentes sous le soleil. Là, un garçon, Arthur, en tenue de footballeur, un ballon signé Zidane sous le bras. Des tranches de vie et des moments d'intimité qui, dans un monde normal, n'auraient jamais dû sortir du cercle familial. Mais en ce mois de décembre 2014, on ne vivait plus dans un monde normal depuis bien longtemps. Et Abigail le savait mieux que quiconque. Ce bureau, ses visages, ses livres sur les pires criminels de la planète, ses armoires fermées à clé, débordantes d'affaires, toutes plus sordides les unes que les autres, en étaient le témoin criant. « Il est 3h du mat, Abby, c'est l'heure, Léa nous attend. » Abigail était assise face au visage d'enfant qu'elle connaissait par cœur. Arthur, avec sa petite mèche blonde et son nez retroussé, Victor avec ses taches de rousseur semées sur ses pommettes hautes et son front, Alice, la belle Alice, d'une beauté d'héroïne de conte. Quand la voix de son père résonna aussi fort que celle sortie d'un mégaphone, la preuve qu'elle somnolait à la frontière entre le rêve et l'éveil, roulement de nuque, Yves se tenait sur le seuil du sanctuaire, s'interdisant d'y pénétrer. Il fixait les photos surréalistes que sa fille fabriquait avec patience, et non sans talent, depuis quelques années, retranscrivant les scènes effroyables de ses cauchemars. « Prends ta valise, » fit-il en se frottant les épaules, comme pour se réchauffer. « On se met en route, le chalet est réservé au Center Park pour 9h. » En 2 ans seulement, Abigail avait vu son père décrépir. 10 kilos en moins, les joues creusées, le crâne chauve, loin de cette brosse militaire portée durant ses années de service au sein des douanes françaises. À 56 ans, il en paraissait aisément 10 de plus. « Je sais pas si c'est une bonne idée, papa. Tu débarques hier avec billes en tête, l'idée d'aller dans ce Center Park, je ne sais où. Je travaille sur une grosse affaire et... une grosse affaire que les gendarmes traînent depuis des années, si j'ai bien compris. Pas des années, papa, 9 mois. Exactement 9 mois depuis le premier rapt, celui de la petite Alice. C'est elle, là, sur la photo. » Yves fixa le portrait de la gamine et détourna les yeux. « Je te demande juste un week-end, 2 petits jours. Lundi matin, tu seras au travail et moi, je serai reparti. Tu peux bien m'accorder ça, non ? Un peu de temps avec ma fille et ma petite fille, loin de tous ces visages. Bon sang, Abby, comment tu peux travailler dans un endroit pareil ? Le lieu où je bosse n'est pas le sujet. Le sujet, c'est tu débarques, tu nous offres un week-end et après, on ne te revoit plus pendant des mois. Quand t'étais douanier, c'était pareil. Tu disparaissais comme ça sans jamais rien expliquer. J'étais en opération et nous, on t'attendait avec maman. Mais maintenant, tu n'es plus en opération et visiblement, les vieilles habitudes ont la vie dure. » Décelant de la peine sur le visage de son père, elle modéra ses propos. Mieux valait ne pas le contrarier avant la route. « Très bien, on va au Center Park. Léa est contente que tu sois venue et même si je ne le montre pas, moi aussi. » Elle se dirigea vers sa chambre et fit sa valise. Contrairement à son bureau, la pièce ressemblait à un intérieur de congélateur. Murs et plafonds blancs, lit monoplace au centre, ampoule nue, pas de décoration. Abigail ne voulait prendre aucun plaisir à être ici. Cet endroit n'était pas celui où elle dormait, mais celui où elle cédait la place à sa narcolepsie. Dans ses bagages, elle rangea, au-dessus d'un roman policier et à côté de ses médicaments, un cahier et un stylo. On avait dit pas de boulot. Ce n'est pas du boulot, c'est un journal. Un cahier de souvenirs et de rêves, plus précisément, une idée de ma neurologue. Tu transposes déjà tes cauchemars en photo. Pourquoi les décrire maintenant ? Je t'expliquerai. Yves poussa un soupir. Ta narcolepsie ? Le traitement est pourtant efficace, non ? Il l'a été pendant 10 ans. J'ai encore 2 ou 3 envies de dormir journalière. Je n'ai plus que quelques cataplexies occasionnelles, mais depuis quelque temps, il y a certains phénomènes nouveaux assez inquiétants. Il va sûrement falloir adapter la posologie de mes médicaments. Les cataplexies étaient l'un des principaux symptômes de la narcolepsie. Très différente des envies de dormir, elle se manifestait par des pertes instantanées du tonus musculaire à n'importe quel moment de la journée et sans altération de la conscience. Abigail pouvait être au cœur d'une discussion et la seconde d'après se retrouver au sol, incapable de bouger pendant plusieurs minutes, bien qu'elle fût éveillée et consciente. Il suffisait qu'elle ressente une émotion très vive, joie, tristesse, pour que cela ait des chances de se produire, sans être pour autant systématique. De ce fait, elle évitait de conduire, surtout lorsque Léa l'accompagnait, et se déplaçait en transport en commun, principalement en bus et en taxi. À cause de ses cataplexies, son enfance avait été un enfer. À 13 ans, elle avait coulé comme une brique au fond de la mer. Arrêt du cœur, son petit corps qui s'arc-boute sous les électrochocs, réanimation aux portes de la mort. À 15 ans, suite à une chute de vélo, elle s'était planté le tube d'acier du guidon dans la gorge et avait été à 2 doigts de se déchirer le larynx. À 19, explosion du genou, os irrécupérable. Chute, accident, blessure, son corps relatait l'histoire de sa maladie, à grand renfort de cicatrices, de fractures, de plaques métalliques. Durant ses années d'école, elle avait traîné tous les surnoms. Trachéo, machine, Frankenstein, Miss Puzzle. Heureusement, avec son traitement et l'évolution des recherches sur la narcolepsie, les cataplexies s'étaient raréfiées. les chutes avaient presque cessé. Abigail avait pu mener une existence quasi normale à partir de 19 ans, faire ses études à Lille et obtenir ses diplômes tout en élevant seule sa fille. Léa était née de l'aventure d'un soir avec un autre étudiant qui n'avait pas souhaité reconnaître l'enfant. Abigail aimait sa fille. Léa, son défi, son médicament, le fruit de son combat, de sa colère, un doigt d'honneur à la narcolepsie. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman Rêvé de Franck Tilliez. Bonne écoute! Père et fille rejoignirent Léa dans la cuisine, où elle buvait un verre de lait. Ils chargèrent les valises dans le coffre de la berline noire, transi par un froid à couper les jambes. Au dernier moment, Léa courut jusqu'à la maison et ressortit avec une peluche de chat noir abîmée. Un doudou offert par sa mère à sa naissance, qu'elle ne quittait jamais, même si, au seuil de l'adolescence, elle en avait presque honte. Dans ces moments-là, Abigail se rassurait. Sa fille, sa grande Léa, qui voulait grandir trop vite, restait une enfant. Léa ouvrit le verrou de sa valise rose au motif à fleurs, y glissa la peluche et la referma. Puis elle enfonça la clé dans sa poche. « Ah, les préados et leur culte du secret !» fit Abigail avec un sourire. « On ne va rien te voler, tu sais ?» Léa lui adressa une petite grimace pour la narguer et s'engouffra dans la voiture. Abigail espérait que ce week-end les rapprocherait toutes les deux. Ce salopard de Freddy était pire qu'un amant. Elle s'installa à côté de son père qui avait déjà mis le contact. « Ton phare avant gauche ne fonctionne pas. Tu vas dire à tes collègues gendarmes de m'arrêter pour ça ?» Yves essayait de plaisanter. Mais l'humour d'un douanier se résumait à des blagues qui ne faisaient rire que d'autres douaniers. Abigail se tourna vers sa fille. « Mets ta ceinture, perlette d'amour chérie. » Léa cala un oreiller entre sa tête et la portière en grimaçant. « C'est quoi ça, perlette d'amour ? C'est notre petit truc rien qu'à nous. Elle a horreur que je l'appelle comme ça et elle est susceptible en ce moment. Ça sent l'ado amoureuse. » Yves se retourna. « C'est vrai ça ?»« N'importe quoi, » grogna Léa. Elle délire comme d'hab. Yves mit le chauffage à fond. Il démarra. En route, il ouvrit une thermos de café brûlant et en versa dans un gobelet en plastique qu'il tendit à sa fille. « Tiens, bois une goutte, ça te réchauffera. Il fait un de ces froids !» Abigail prit le gobelet et jeta un coup d'œil en direction de son père. « Qu'est-ce qui se passe, papa? T'as changé, c'est dingue, t'as perdu du poids, t'as l'air fatigué. »« Ça va. Pourquoi t'as démissionné? Et toi, pourquoi tu me parles de ça maintenant ?»« Parce que je n'ai jamais pu avant. J'avais 54 ans, j'en ai marre des douanes, des missions, des planques. » Combattre le trafic de drogue, c'est vider l'océan avec une petite cuillère. Et un jour, ça te... Il ravala sa rancœur. Enfin bref, à cause de ce fichu métier, je t'ai pas vu grandir. Et aujourd'hui, c'est impossible de percer la coquille qui t'entoure. Je n'arrive plus à me rapprocher de toi. Abigail remarqua le léger tremblement de ses mains sur le volant. Je suis bien dans ma petite maison de pêcheur. C'est pas loin de la mer, je me repose, je vivote. Ça me va, tu sais. Et tu lâches à quelques années seulement de la retraite. On verra bien si tu seras encore psy quand t'auras mon âge. En tout cas, j'espère que tu comprendras avant moi qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie qu'écouter les plaintes des gens et se battre contre des moulins à vent. Que tu sois là ou pas, les crimes, les trafics existeront toujours. Mais au moins, j'aurais apporté ma petite pierre à l'édifice, j'aurais été utile et peut-être que j'aurais sauvé quelques vies. Les yeux d'Yves s'évadèrent vers le rétroviseur en direction de sa petite fille. Elle te ressemble tellement. C'est toi que j'ai l'impression de voir quand t'étais jeune. Même physique, même caractère. Abigail eut un regard triste. Son père le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Depuis quelques mois, j'ai fait un tas de tests, d'examens. Je ne voulais pas t'en parler sans être certaine, mais il se passe quelque chose de grave. » « Explique. » Au fil du temps, certains de mes souvenirs les plus anciens s'effacent par blocs plus ou moins importants. Il y a un tas de trous dans mes souvenirs d'enfance. Je me vois encore bien à mes 13, 14 ans, mais avant, tout est flou. » « Mon Dieu !» Ma neurologue pense que c'est peut-être le propidol qui cause ces dégâts sur le long terme, mais elle n'en a aucune certitude. Il n'y a jamais eu d'autres cas avérés. Comme si chaque goutte de ce médoc détruisait une partie infime de ma cervelle, s'attaquait aux neurones comme de l'acide et déconnectait définitivement les souvenirs. On cherche des solutions. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ce médicament. Sinon, je fais 10 cataplexies par jour et je ne peux plus vivre. C'est l'une des raisons pour lesquelles je note mes souvenirs et mes rêves. Ça me permet de tenir un cahier de ma vie, de mettre sur papier les jours qui s'écoulent, pour plus tard, au cas où ça empirerait, tu comprends ? Son père eut à son tour le regard triste. Il préférait intérioriser, absorber et éviter les mots. De ce fait, elle aussi se tut et observa la route. Avec une telle peur de l'avenir, de cette maladie imprévisible nichée au fond de son cerveau. Que sommes-nous sans mémoire, sans souvenir, sans le rappel de ses visages, de ces voix qui ont accompagné nos existences. Juste un point sur la courbe du temps, une fleur qui a éclos mais sans parfum ni couleur. À 50 ans, ne saurait-elle plus qui elle était avant ? Aurait-elle oublié toute la jeunesse de Léa, la grossesse, la naissance, les premiers anniversaires ? Elle fixa les lumières des phares, se comparant à cette route éclairée sur 30 mètres. Un bloc d'asphalte sombre dont la trace s'effaçait dans l'obscurité, au fur et à mesure que la voiture avançait. Son père releva ses manches pour conduire. Malgré tout, Abigail se rappelait qu'il avait toujours fait ça, hiver comme été, et elle remarqua les nombreuses traces de piqûres sur ses avant-bras. Ça ne collait pas à son physique de guerrier. Elle préféra ne rien dire, mais se promit de mettre les choses au clair un peu plus tard, persuadée que ce week-end était un prétexte et qu'il avait lui aussi quelque chose de grave à annoncer. Chapitre 6. Aux alentours de 3h25, ils quittèrent la petite ville d'Elem, département du Nord. Des cristaux de glace s'accrochaient aux cyprès et scintillaient sur la route. Direction l'Est. Le Center Parks se situait à Attigny, à plus de 450 km de là. Cette nuit, Abigail voulait rester réveillée le plus longtemps possible et n'avait pas pris sa solution buvable de propidol. Ce médicament à la prescription très encadrée était de l'oxybate de sodium, un narcotique qu'on pouvait assimiler à du GHB, une drogue bien connue des milieux de la nuit associée au viol. À chaque prise, Abigail diluait 5 gouttes dans un verre d'eau, pas une de plus, pas une de moins. Le propidol la plongeait dans les limbes environ un quart d'heure après l'absorption, et ce, sur une durée de 4 à 5 heures. À raison de 2 prises égales par nuit, elle dormait d'un sommeil réparateur et surtout ne subissait plus que des cataplexies occasionnelles, tout au plus une ou deux par semaine. Restaient ses besoins de micro-sieste irrépressibles, mais qu'elle avait appris à gérer. Un peu plus tard, elle sentit des changements de rythme dans le régime moteur. Il n'était déjà plus sur l'autoroute. Yves plissait les yeux pour essayer d'y voir quelque chose. Après cette journée humide, des nappes de brume s'enchaînaient, mais à certains endroits, il n'y avait pas de verglas. Je cherche de l'essence, on a fait à peine 20 bornes, mais j'ai préféré sortir parce que sur l'autoroute, la prochaine station est à 40 km. Abigail jeta un œil au voyant d'essence allumé. Quoi, on a fait que 20 bornes ? Il y a un bled à 5 ou 7 km, on trouvera bien une pompe ouverte. Fichu brouillard, je déteste le Nord rien que pour ça. Il faisait une chaleur de four, désormais, dans la voiture. Abigail se recroquevilla plus encore. Elle avait ôté ses vieilles Doc Martens et regroupé ses jambes sur le siège. Et malgré la ceinture qui lui barrait le torse, elle se sentait bien, comme enveloppée dans une doudoune. Le sommeil pesait sur ses épaules. Son père arrivait à un embranchement en Y, face à un panneau triangulaire jaune, travaux route bloquée. Une petite lumière d'avertissement orange clignotait et proposait un itinéraire de déviation. Abigail n'avait à présent plus la force de parler, écrasée par l'envie de dormir. « La ville t'annonçait à 4 km, » fit Yves. « Si on prend le détour, je sais pas où ça va nous mener. Tu n'as pas de GPS ?»« Non, je déteste ces engins. »« Tant pis, les ouvriers ne bossent pas la nuit, je suppose. » Son père contourna le panneau posé au milieu de la chaussée et s'engagea sur la route déserte et interdite à la circulation. Ses paupières papillotèrent et s'ouvrirent en grand lorsqu'elle aperçut soudain une forme dans l'éclat des phares. Il s'agissait d'une silhouette recourbée de taille humaine, les oreilles en pointe, entourées de brume. « Freine !» Yves donna un brusque coup de frein, puis il se pencha vers sa fille. « Qu'est-ce qui se passe ?» À travers ces passages, nous découvrons un personnage hanté par sa maladie et son travail. Abigail ne distingue pas la réalité du cauchemar. Alors, cette forme sur la route, rêve ou réalité ? Je vais vous laisser dans le doute jusqu'à la semaine prochaine où l'on aura la réponse à cette question et où l'intrigue pourra réellement commencer. Nous étions dans le roman Rêver de Franck Tilliez. Vous pourrez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique Voix au chapitre. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
me, you and I.